Relier les deux affaires n'avait jamais constitué que la première étape, celle qui la suivait devant bien évidemment être celle où l'on identifierait puis capturerait le meurtrier. Personne n'ayant le moindre indice supplémentaire, McCaleb s'était intéressé au temps qui s'était écoulé entre les deux assassinats. Le « sujet inconnu », comme on l'avait officiellement appelé le tueur dans les documents du FBI, avait tenu 11 mois avant que, ses pulsions le reprenant, il décide de repasser à l'acte et enlève sa deuxième victime. McCaleb avait alors compris que le meurtrier avait été tellement impressionné par son premier meurtre que ses fantasmes avaient pu s'en contenter, voire s'en nourrir pendant presque un an. Cela étant, le profil psychologique avait montré que cet intervalle entre les crimes se réduirait chaque fois que le tueur frapperait et que celui-ci devrait se mettre de plus en plus vite en quête d'une nouvelle proie. McCaleb avait dressé un profil général du tueur à l'intention de Winston, ce qui ne pouvait pas servir à grand-chose, et l'un comme l'autre, il le savait. Caucasien, 20-30 ans, boulot et existence de domestique, avec ça on n'allait pas loin. Il était aussi probable que le dit sujet inconnu avait déjà tué ou s'était conduit de manière anormale. S'il y avait eu des périodes d'incarcération plus ou moins longues dans son passé, cela risquait de beaucoup modifier la fourchette d'âge possible du tueur. C'était toujours pareil. Les profils du VICAP étaient en général parfaitement exacts, mais permettaient très rarement d'appréhender quiconque. Celui qu'on avait transmis à Winston aurait pu s'appliquer à des centaines, voire à des milliers d'hommes de la région de Los Angeles. Toutes les pistes ayant été explorées, il n'y avait plus rien à faire d'autre que d'attendre. McCaleb avait noté l'affaire dans son agenda et s'était occupé d'autres dossiers. Au mois de mars de l'année suivante, soit 8 mois après le deuxième meurtre, il était tombé sur sa note, avait relu le dossier et décidé de passer un coup de fil à Winston. Rien de bien neuf ne s'était produit. Il n'y avait toujours ni suspect, ni piste nouvelle. McCaleb avait alors demandé à Winston de faire surveiller les tombes des deux victimes et les endroits où le tueur avait jeté leur corps. L'assassin arrivait au bout du cycle et ses fantasmes devaient commencer à s'étioler. Le besoin qu'il avait de se sentir supérieur à quelqu'un et de le dominer allait vite augmenter et devenir de plus en plus difficile à maîtriser. Le fait qu'il eût, à ce qu'il semblait du moins, rhabillé les corps de ses victimes après chaque meurtre indiquait très clairement qu'il y avait en effet conflit dans son esprit. Une partie de lui-même avait honte de ses méfaits, ce qu'il essayait inconsciemment de cacher en remettant leurs vêtements à ses victimes, tout cela laissant entendre qu'au bout de 8 mois, il allait être en proie à des passions aussi violentes que contradictoires. Le besoin de repasser à l'acte et la honte qu'il en éprouverait étaient les deux aspects qui s'opposeraient en lui, chacun essayant de prendre le pas sur l'autre. Une des manières qu'il aurait alors de tenir momentanément en échec son envie de tuer serait sans doute d'aller revoir les lieux où il avait commis ces deux crimes afin de redonner quelque vigueur à ses fantasmes. McCaleb s'était dit qu'il retournerait peut-être aux endroits où il avait jeté ses cadavres ou irait voir leurs tombes au cimetière, cette démarche lui permettant de s'approcher à nouveau de ses victimes sans avoir à en exécuter d'autres. Winston s'était montré très réticente à l'idée de faire surveiller ces endroits, en se fondant sur la seule hypothèse d'un agent du bureau. Mais McCaleb avait déjà eu le feu vert pour recruter deux agents qui l'aideraient dans cette tâche et avait joué sur le professionnalisme de Winston en lui faisant remarquer que si elle refusait, elle se demanderait toujours si cette surveillance aurait pu réussir, surtout si le tueur décidait de frapper à nouveau. La conscience ainsi torturée, Winston était allé voir son lieutenant et ses collègues de la police et un groupe de surveillance fut finalement monté grâce à la coopération des 3 corps de police chargés du maintien de l'ordre. Puis, en arrêtant son plan d'action, Winston avait appris que les deux victimes avaient été enterrées au même cimetière de Glendale, à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Le renseignement ayant été communiqué à McCaleb, celui-ci en avait déduit que si le sujet inconnu décidait de se montrer quelque part, ce serait très probablement à cet endroit. Il ne s'était pas trompé. La 5e nuit, McCaleb, Winston et les 2 autres inspecteurs qui se cachaient dans un mausolée, d'où l'on apercevait les 2 tombes, avaient vu un homme arriver au cimetière dans un van, en descendre, et sauter par-dessus le portail fermé au cadenas. Il portait quelque chose sous le bras et avait gagné la tombe de sa première victime. Il y était resté 10 minutes, puis s'était dirigé vers le caveau de la 2e, ce qui montrait qu'il avait déjà reconnu les lieux. Arrivé devant la 2e dalle, il y avait déroulé ce qui s'était révélé être un sac de couchage et s'y était assis un instant en s'appuyant sur la croix. Les inspecteurs ne l'avaient pas dérangé, préférant filmer la scène avec une caméra vidéo à infrarouge. Le tueur n'avait pas mis longtemps à ouvrir sa braguette et à commencer à se masturber. Avant même qu'il ait regagné son van, l'homme avait été identifié grâce aux plaques d'immatriculation de son véhicule. Il s'agissait d'un certain Luther Hatch, âgé de 38 ans et jardinier de son état, il avait été libéré de la prison de Folsom, où il avait purgé une peine de 8 ans pour viol. Le sujet avait cessé d'être inconnu pour faire un suspect des plus convenables. Il suffisait d'ôter ses 8 ans de tôle pour que le profil psychologique du VICAP colle parfaitement à son personnage. On l'avait donc surveillé 24 heures sur 24 pendant quelques 3 semaines, au cours desquelles il était revenu 2 fois au cimetière de Glendale. Un jour, enfin, les inspecteurs l'avaient arrêté au moment même où il tentait d'enlever une jeune femme qui sortait de la Sherman Oaks Gallery. Dans le vent, ils avaient découvert du chatterton et du fil à linge coupé en morceaux d'environ 1,20 m. Leur commission rogatoire obtenue, ils avaient désossé le véhicule et passé l'appartement du tueur au peigne fin. Poils, cheveux, fibres et traces de fluide corporel qu'après analyse à l'ADN, on avait pu identifier comme étant ceux des 2 victimes, toutes les preuves nécessaires avaient enfin été réunies. Promptement rebaptisé le rôdeur des cimetières par les médias locaux, Luther Hatch avait accédé au panthéon des tueurs en série qui fascinent les foules. C'était grâce au savoir et aux intuitions de McCaleb que l'inspecteur Jay Winston avait pu résoudre l'affaire, et c'était là une réussite dont on parlait encore tant à Quantico qu'à Los Angeles. Après avoir arrêté leur rôdeur, les inspecteurs étaient tous allés fêter leur succès au bar, et c'était ce soir-là que, profitant d'un moment d'accalmie, Jay Winston s'était tourné vers McCaleb et lui avait dit « Je vous dois une fière chandelle, moi et tous les autres ».